Le Seigneur est bon, n'est-ce pas?
Amen.
Et tout ce que nous avons est un don de sa grâce. Et il nous donne, jour après jour, de sa grâce. Alors, comme je disais tout au début du culte, c'est un plaisir de vous revoir ce matin, après qu'on ait pris ces quelques jours de vacances. Et tout d'abord, donc, je vous transmets les salutations du pasteur Daniel Perlinski pour ceux qui s'en souviennent, donc, et pour ceux qui se souviennent d'Henri et Lydie. Donc, Daniel est le neveu d'Henri et Lydie, donc, était pasteur au Havre, maintenant à la retraite, mais il était parmi nous il y a quelques années. Nous a redit à quel point il avait apprécié son passage parmi nous ici, à quel point même à l'époque ça leur avait fait du bien d'être parmi nous, et donc il souhaitait que je vous transmette ses salutations. C'est lui qui a prêché à l'église de Fécamp où on était dimanche dernier. C'était un plaisir de le revoir. C'est toujours aussi un plaisir, n'est-ce pas, de pouvoir être en vacances, de pouvoir se reposer un peu. Et c'était un plaisir de pouvoir s'asseoir au soleil et lire avec un soleil un petit peu moins fort qu'ici. Désolé pour vous si vous avez dû souffrir ces deux dernières semaines. On est parti, il faisait affreusement chaud. On est rentré, il fait toujours affreusement chaud. Donc je conclus qu'il a fait affreusement chaud tout le temps où on était parti. L'avantage en Normandie, j'ai pu m'asseoir dehors au soleil pour lire sans craindre l'insolation ou les coups de soleil. Parmi les différentes choses que j'ai pu lire, je lisais entre autres dans les journaux l'histoire, peut-être vous avez suivi aussi aux infos, de ce bateau qui avait sombré en pleine mer près de Sicile, avec donc plusieurs morts suite à ce naufrage. Et cette histoire m'a fait directement penser à une histoire dans le Nouveau Testament que nous allons lire ensemble aujourd'hui, qui se trouve dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, à partir du verset 13, et nous allons lire jusqu'au verset 34. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance ?» Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte ?»« Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent, et cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Donc, lorsque je lisais l'histoire de ce bateau qui avait fait naufrage, les journaux ont vite souligné que ce bateau appartenait à un homme qu'il surnommait parmi les journalistes le Bill Gates britannique. Puisque donc c'était un bateau qui appartenait à un homme d'affaires qui avait fait fortune en vendant un logiciel qu'il avait créé pour la bourse. Et lorsque je dis qu'il avait fait fortune, la vente de ce logiciel lui avait fait une fortune qui se comptait en dizaines de milliards d'euros. Donc c'était effectivement un homme bien riche qui avait fait fortune. Et lorsque ils ont commencé à parler de celui à qui appartenait le bateau, son nom me semblait familier, mais je ne savais pas plus pourquoi. Et puis donc, en lisant plus loin, je me suis rendu compte que j'avais effectivement vu son nom l'année dernière, parce que l'année dernière, donc, cet homme d'affaires avait été extradé de l'Angleterre vers les États-Unis parce qu'il était poursuivi pour fraude concernant justement la vente de ce logiciel. Alors, il se trouve que donc cet été, il venait de gagner son procès aux États-Unis contre cette accusation de fraude dans la vente de son logiciel. Et donc, c'est pour cela qu'il était là, sur son bateau. Il avait réuni sa famille, ses amis, ses avocats pour fêter la victoire dans ce procès. Et donc, apparemment, pour faire ses projets de ce qu'il allait faire par la suite. Et c'est là, justement, où j'ai vu tout de suite un lien avec ce texte. Non pas tellement dans le verset 21 qui dit que il est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Je ne connais pas cet homme, je ne sais pas quelle attitude de cœur il avait, ni ce qu'il comptait faire avec son argent, mais plutôt avec les paroles un tout petit peu avant cela, dans le verset 20, quand Dieu dit « Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Lorsque cet homme et ses invités sont montés à bord ce bateau, ils étaient loin d'imaginer que cette nuit même, leur âme leur sera redemandée. Et pourtant, c'était le cas. En un rien de temps, tout a basculé, leur vie était terminée. Et donc, cette histoire est un exemple parfait de l'incertitude des richesses et l'incertitude de la vie même. Et que finalement, il est essentiel de se centrer sur le Seigneur, sur son royaume, parce que c'est le seul point fixe que nous avons. Tout le reste peut partir en un rien de temps. Nous avons tous vu, il y a quelques années, des gens qui ont tout perdu dans un crash boursier. Il y a des gens qui, du jour au lendemain, peuvent apprendre qu'ils ont une maladie incurable. Il y a des gens qui, du jour au lendemain, découvrent que leur âme leur est redemandée. Et comme disait le Seigneur dans cette parabole, à ce moment-là, à quoi bon les richesses ou tout ce qu'on veut de ce monde? Rien ne va pouvoir nous aider face à ce genre de situation. Les richesses de ce monde, donc, sont très incertaines. Cet homme avait beau avoir un compte en banque qui se comptait par milliards, cela ne pouvait pas racheter sa vie au moment où ce bateau a coulé. Il aurait pu acheter tous les services de secours du monde. Personne ne pouvait venir le sauver cette nuit-là. Et donc, cette parabole racontée par Jésus se trouve dans un contexte de mise en garde, finalement, non pas contre l'argent, mais contre l'avarice. Dieu n'a jamais dit ce que les gens lui prêtent souvent comme intention. Dieu n'a jamais dit que l'argent est la source de tous les maux. En 1 Timothée 6, verset 10, il dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Dans les versets 30 et 31 de ce que nous avons lu ce matin, Dieu dit, votre Père sait que vous avez besoin de l'argent pour vivre, de ce qu'il faut pour vivre. Et il dit donc, cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, pas mauvais en soi si Dieu nous dit qu'il nous donnera ce qu'il nous faut. Et dans l'histoire de l'Église, depuis le Nouveau Testament jusqu'à aujourd'hui, dans l'Église, il y a des gens de toutes sortes de standing social. Il y a eu des riches, il y a eu des pauvres dans l'Église depuis le début. Ce n'est pas l'argent en soi qui est la question, mais Dieu nous dit que l'amour de l'argent est mauvais. Et cet amour de l'argent, finalement, n'est pas, comme il dit, quelque chose qui affecte ou qui infecte seulement les riches. Tout le monde est capable d'aimer l'argent et de vivre dans l'avarice. On avait une fois, un journaliste avait posé la question au millionnaire de l'époque, Rockefeller, combien d'argent il fallait pour être heureux. Sa réponse était un peu plus. Un homme riche peut vivre avec l'avarice, mais les pauvres aussi peuvent vivre avec l'avarice et avec l'idée, si seulement j'étais riche, tous mes problèmes seraient résolus. Le Seigneur nous dit, l'argent ne résout pas nos problèmes. Nous avons besoin d'autre chose. Le problème que Dieu indique avec l'avarice, avec cet amour de l'argent, c'est que l'avarice, finalement, est une forme d'idolâtrie. Car nous mettons notre confiance dans l'argent. L'argent deviendra la solution pour nos problèmes. Ce dont on a besoin pour être heureux et pour bien vivre. Justement, nous avons regardé ce passage dans 1 Timothée 6 où Dieu dit « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux ». En fait, quand on lit le verset 9 et 10, il dit « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Au moins, on ne pourra jamais dire que Dieu ne nous avait pas prévenus. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'était, je crois, le général de Gaulle qui avait parlé de ces possédants qui sont possédés par leur possession. L'apôtre Paul avait dit, il y a des siècles avant, quelques-uns étant possédés par l'amour de leur possession, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il nous met en garde contre cette forme d'idolâtrie, puisque donc, pareil, dans Hébreux 13, verset 5, il est écrit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Donc finalement, la Bible souligne l'avarice comme une forme d'idolâtrie. Mais le fait de mettre sa confiance, son espérance dans de l'argent, plutôt qu'en Dieu lui-même. Je dis, mais la somme que vous avez en banque est bien secondaire. Si je suis avec vous. Donc ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, car je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et Ésaïe, pour ceux qui ont suivi les études bibliques ces derniers mois, Ésaïe a bien montré que le problème avec les idoles, le problème d'idolâtrie, c'est qu'une idole fait partie de ce monde actuel. Une idole fait partie donc du monde déchu. Du coup, une idole est incertaine. Une idole est incapable de nous sauver. On avait lu le chapitre où Ésaïe dit, mais quand on arrête et on réfléchit un peu, se faire une idole, c'est ridicule. Il dit, l'homme, il sort, il choisit un bel arbre, il le coupe, il le scie en deux. Avec la moitié, il se crée son Dieu, il se fait une idole, il l'adore, il le prie. Il dit avec l'autre moitié du bois qui reste, ben, il le coupe en morceaux et il l'utilise pour allumer le feu pour faire cuire son repas. Et il ne s'arrête pas un instant pour se dire, mais attendez, si j'avais fait le choix inverse, le bout de bois en qui je suis en train de mettre toute ma confiance, à qui je suis en train de prier, j'aurais cuit mes saucisses avec. Ça n'a aucun sens. Comment est-ce que je peux espérer que ce bout de bois qui aurait très bien pu servir à faire cuire mon repas, comment est-ce que ce bout de bois pourrait me sauver et répondre à mes besoins? Dieu donc condamne l'avarice parce qu'il nous demande de lui faire confiance pour tout, de lui faire confiance qui nous donnera ce qu'il nous faut. Pierre, par exemple, lorsqu'il devait payer l'impôt pour lui-même et pour Jésus, Jésus a pourvu ce qu'il fallait au bon moment. Il n'avait pas besoin de se faire toutes sortes de soucis, car Jésus était avec lui. Son père savait de quoi il aurait besoin. Lui qui s'occupait du royaume de Dieu, le Seigneur donc a pourvu par-dessus ce qu'il lui fallait pour pouvoir payer l'impôt. Donc Dieu nous demande de lui faire confiance plutôt que de mettre notre confiance dans nos biens, dans nos richesses, dans l'argent. Alors en même temps, il ne faut pas non plus faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Il nous demande de lui faire confiance, mais en même temps, lorsqu'il nous donne, ce n'est pas une excuse de ne pas en faire une bonne gestion. Il y en a qui se disent, ah ben si c'est le Seigneur qui va pourvoir, je peux tout dilapider, tout dépenser, j'ai pas besoin de me faire des soucis parce que je peux toujours me tourner vers le Seigneur et dire, Seigneur, tu vois que j'ai tout dépensé. Donc maintenant, il faudrait trouver un autre revenu, me donner encore, puisque j'ai tout dilapidé. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, puisqu'il y avait clairement dans l'église du début les uns qui disaient « Ah ben si, le Seigneur va revenir, et si le Seigneur pourvoit à tous nos besoins, pas besoin d'aller travailler, pas besoin de gagner l'argent, parce qu'on a juste à prier et le Seigneur nous donnera. » Généralement, c'était par les autres chrétiens qui comptaient que le Seigneur allait leur donner l'argent d'ailleurs. 2 Thessaloniciens 3, verset 10, « Lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, pas de souci, il est libre de ne pas travailler, mais à ce moment-là, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. » Donc, avoir foi dans le Seigneur ne veut pas dire qu'on fait tout et n'importe quoi en disant « Bon, ben, Seigneur, c'est à toi de réparer les dégâts derrière moi. » Il nous demande de ne pas vivre dans le désordre. Dans 1 Timothée 5, versets 3 à 8, il disait également « Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. » C'est fort, n'est-ce pas, ce que dit l'apôtre dans ce passage. Il dit qu'ils apprennent à vivre en tant que chrétiens, qu'ils apprennent à vivre la vie chrétienne, qu'ils apprennent à exercer la piété en prenant soin des membres de leur famille, et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Donc, d'avoir une attitude d'ordre dans ses finances n'est pas contraire au fait d'avoir la foi. Et puis, il y a pas mal de proverbes aussi qui, sur ce thème, qui nous invitent à être de bons gestionnaires de ce que Dieu nous donne. Proverbe 10, verset 4. Je vais le lire dans le français courant. « Des mains nonchalantes attirent la pauvreté. Des mains actives procurent la richesse. Qui amasse des provisions pendant l'été est un homme sensé, mais qui dort pendant la récolte mérite le mépris. » Proverbe 21, verset 20. Dans la demeure de l'homme sage, on trouve de précieux trésors et des réserves d'huile, mais l'insensé dilapide ce qu'il a. En même temps, donc, la Bible nous dit, oui, il faut être de bons gestionnaires de ce que Dieu nous donne, mais il ne faut pas aimer l'argent à tel point qu'on dit, bon, bah, j'économise tout, et même je suis prêt à me compromettre pour gagner un peu plus. S'il faut être un petit peu moins honnête, la Bible souligne souvent en particulier le fait de jouer sur les prix et les poids pour gagner un peu plus. La Bible dit en Proverbe 10, verset 2, « Des biens mal acquis ne profitent pas, mais mener une vie juste sauve de la mort. » Il faut veiller à ce que l'amour de l'argent ne prenne pas le dessus pour nous pousser à nous compromettre, à sortir des voies d'une vie juste simplement pour avoir un peu plus. Proverbe 28, versets 20 à 22. L'homme loyal sera comblé de bénédictions, mais celui qui veut s'enrichir rapidement ne restera pas impuni. Celui qui est partial n'agit pas bien, et pourtant, un homme est capable de faire le mal pour une bouchée de pain. L'homme envieux se hâte de s'enrichir. Il ne se rend même pas compte que la pauvreté va fondre sur lui. D'autant plus que, comme on a pu voir dans l'introduction, les richesses de ce monde faisant partie de ce monde actuel qui va vers sa fin, qui n'est pas certain, ces richesses non plus ne sont pas certaines. Dans le verset 33, Jésus parlait du risque des voleurs, du risque de la teigne. Et les richesses de ce monde peuvent disparaître comme elles sont venues. Vous allez être perdu si vous mettez votre confiance dans elles pour résoudre vos situations. D'autant plus qu'il est absolument certain, nous dit la Bible, qu'on ne pourra pas et on ne voudra pas les emmener avec nous de la nuit où notre âme nous sera redemandée. 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 8. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. C'était l'évangéliste Billy Graham qui avait dit une fois, il faut accepter, vous n'allez jamais pouvoir attacher un camion de déménagement derrière le corbillard le jour où on vous emmène à le cimetière. La Bible donc nous encourage à faire confiance à Dieu pour notre provision, de reconnaître que c'est Dieu la solution à nos problèmes, de ne pas faire n'importe quoi avec ce que Dieu nous donne, mais de ne pas mettre notre confiance dans ces richesses incertaines, mais d'être assuré que c'est Dieu qui prend soin de nous, que c'est Dieu qui est le seul point fiable que nous pouvons avoir dans la vie. Et donc de le servir, lui, tant que possible. Parce que non seulement les richesses sont incertaines, mais aussi, Jésus dit, mais la vie entière est incertaine. Vous ne contrôlez rien. Vous ne pouvez rien contrôler dans la vie. C'est ce que ces histoires soulignent également. L'homme qui avait dit, je vais bâtir tous ces greniers et comme ça je vais être tranquille pour des années à venir. C'était la fin de sa vie. Il n'avait pas les années à venir devant lui. Ceux qui sont montés avant ce bateau, pareil, ils n'avaient pas les années devant eux pour réaliser tous les projets. Et justement, j'avais lu un article où un ami de la famille dit « Oh, mais quel dommage, cet homme venait de me parler de tous les projets, de tout ce qu'il voulait faire maintenant que le procès était terminé. » Il ne lui restait plus le temps de faire quoi que ce soit. Nous devons reconnaître, nous dit la Bible, que nous ne sommes maîtres de rien dans la vie. Jacques, chapitre 4, verset 13. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera même demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Et pas simplement comme petite phrase toute faite bien évangélique, pour continuer à faire tout ce qu'on veut en disant, bon, bah, pour rester dans mes règles, je vais ajouter si Dieu le veut. Mais à condition que Dieu soit d'accord avec mes projets. Mais dans le sens où vraiment nous avons cette conviction que tout ce qu'on a dans la vie, tout ce qu'on pourra faire dans la vie dépend de Dieu et qu'on a besoin de dépendre de lui tous les jours et de se laisser conduire par lui. Car Jésus souligne dans le passage que nous avons lu ce matin, nous ne pouvons même pas contrôler la moindre circonstance de cette vie. Verset 25, il dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coulée à la durée de sa vie ? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous de reste ? Il faut juste reconnaître, vous n'êtes pas Dieu. Nous ne sommes pas maîtres de notre destin, de notre vie. Mais Dieu est au-dessus de nous et nous devons et nous pouvons mettre notre confiance en lui. C'était aussi un des messages centraux d'Ésaïe que nous avons pu voir en traversant ce livre. Compte tenu d'Ésaïe, des réalités de la vie, nous devons mettre notre confiance en celui qui, lui, est maître des circonstances, qui lui est maître de l'univers, maître du temps, maître de toute notre vie. Il est le seul point stable sur lequel nous pouvons compter. La Sainte Seine nous a rappelé à nouveau ce matin notre dépendance de lui pour la vie et surtout pour la vie éternelle. Si nous ne pouvons rien contrôler dans cette vie, il est encore plus certain que nous ne pouvons pas maîtriser quoi que ce soit sur le plan éternel. Seul Dieu est capable de le faire. Lui seul est capable de nous sauver. Lui seul mérite notre confiance pour cette vie et pour la vie éternelle. Parce qu'en Matthieu 24, verset 35, Jésus a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Quel dommage si on se compromet devant lui pour les choses de ce monde-ci qui sont tellement incertaines jusqu'à le contrôle de notre vie qui peut nous être redemandé d'un jour à l'autre. Quel dommage si on n'a pas mis notre confiance dans ses paroles qui ne passeront point, car les paroles de la vie éternelle données par celui qui est éternel et qui est le maître de tout l'univers et de tous les temps. Il est donc essentiel de venir à lui pour avoir la vie. Il est essentiel de lui confier tous les aspects de notre vie et puis de vivre tous les jours avec lui, en cherchant à l'honorer, en cherchant à le servir, en cherchant à faire tous les jours ce que lui nous révèle, ce que lui nous demande de faire, ce qui est juste à ses yeux, parce que nous avons cette ultime conviction que ses paroles ne passeront pas. Le jour où on se présente devant lui, la seule chose qui comptera, ce sera de pouvoir dire bah, « J'ai cru en ce que tu m'as dit. » J'ai cru lorsque tu m'as dit que Jésus-Christ est mort pour moi. J'ai cru lorsque tu m'as dit que si je mettais ma confiance en lui, si je te confiais ma vie, je n'aurais point honte, mais tu me sauverais. Après, tout ce qu'on aurait pu faire dans cette vie ne comptera pas pour grand-chose. Tout ce qu'on aura eu dans cette vie ne comptera pas ou grand-chose à côté de cela, car le ciel et la terre passeront. Pour ça que l'apôtre Pierre dit aussi, « Puisque ce monde entier et tout ce qu'il contient est en voie de disparition, combien notre conduite doit être sainte ?» Puisqu'à la fin, la seule chose qui restera, c'est le royaume de Dieu, fondé sur sa parole qui ne passe pas. Il est donc essentiel qu'on mette notre confiance en lui, qu'on dépend de lui, qu'on vit pour lui, qu'on le sert et qu'on soit reconnaissant envers lui, qu'il soit toujours notre seule espérance pour cette vie et pour la vie éternelle. Ce matin donc, je propose qu'on puisse fermer les yeux quelques moments et regarder au fond de notre cœur devant le Seigneur pour s'assurer que notre confiance est en lui, qu'on a bâti notre vie sur lui, que si aujourd'hui même notre âme nous était redemandée, on saurait en qui on avait cru et on saurait qu'il est digne de notre confiance. La Bible nous dit que lorsqu'on se regarde dans ce miroir de la parole, si on se rend compte qu'on est en train de faire fausse route, il y a cette grâce de la repentance que Dieu nous offre. De dire, oh, le Seigneur m'a montré que je fais fausse route. Je vais m'arrêter tout de suite avant de m'éloigner davantage de ma destination. Et je vais faire demi-tour et suivre les voies de Dieu. Dans sa grâce, le Seigneur nous donne la possibilité de le faire. Profitons de cette grâce aujourd'hui et mettons toute notre espérance et toute notre confiance en lui.